Whether you like it or not, you always know what he's thinking. And that is because he's an authentic person who loves this country and its people and wants to continue to make it better.
C'était Melania Trump qui disait, ben écoutez, mon mari, qu'on l'aime ou pas, vous savez toujours ce qu'il pense et il veut rendre les États-Unis meilleurs, Raphaël.
Oui, écoute, comme spin, c'était probablement le mieux qu'on pouvait sortir pour essayer de redéfinir Donald Trump.
Je t'interromps, je suis désolé. Si on était dans un film hollywoodien, là, je pense qu'elle sortirait de ce qui est écrit sur le... Elle serait sortie de ce qui est écrit sur le prompteur, puis elle aurait dit « Je suis tanné de cette relation et je vous dis, c'est un être horrible. »
Mais bon, si seulement c'est un film hollywoodien. En fait, on est dans une télé-réalité. Enfin, on n'est pas dans un film hollywoodien, on n'est pas non plus dans la réalité, on est dans une télé-réalité.
Et l'héritage doit être assez imposant pour lui imposer, disons, un devoir de réserve.
Pour oui.
Je viens pas vraiment te dire ça.
Non, non.
Je viens pas te sous-entendre que Melania est avec Donald juste pour l'argent.
Évidemment que non. Surtout pour sa personnalité authentique. Elle l'a elle-même dit hier, Pat, pourquoi tu ne le crois pas sur parole? C'est un homme authentique. Écoute, tu as eu une défense quand même d'une bonne demi-heure là, du président par l'entremise de sa femme, de la première dame, et tu as eu, en fait, et là je veux dire sans sarcasme, tu as eu une soirée très largement réussie hier. Je veux dire pourquoi, une seule raison, en fait une raison principale, c'est qu'on s'est concentré sur la priorité numéro un, c'est-à-dire redorer, en tout cas, essayer de redorer l'image de Donald Trump. Est-ce que ça va marcher? Écoute, on verra. C'est très possible que l'opinion publique soit juste trop cristallisée à son endroit pour que sa convention ait vraiment un impact énorme à ce stade-ci, mais c'était ce qui devait au moins être essayé, et ça n'a pas été fait seulement par les membres de sa famille, même si, disons-le franchement, ça a été un petit peu outrancier, là, parce qu'écoute, t'avais la première dame, t'avais sa fille Tiffany, t'avais son fils Eric, la veille t'avais eu la copine de son fils Don et son fils Don lui-même. Tu sais, ça devient pratiquement ridicule à quel point la famille Trump a un rôle foncier dans cette convention-là.
Mais Raphaël, je viens de retweeter là, un message que t'as envoyé sur Twitter il y a 2 heures et tu dis, écoute, t'expliques aux gens, je suis sceptique des chances de réélection de Trump, mais... Il y a des signes, puis tu vas nous expliquer ces signes-là, il y a des signes qui montrent que Trump est loin d'être mort.
Oui, ben c'est ça, justement. C'est-à-dire que, premièrement, la Convention républicaine, hier, je pense, l'a bien servi. Parce que on a non seulement eu des membres de sa famille qui l'ont défendu, mais on a eu des Américains ordinaires qui, eux, sont sortis pour dire comment ils ont directement bénéficié de ses actions depuis qu'il est président. Je te donne 2 petits exemples. Le premier, un policier qui a adopté, et c'est une histoire qui est honnêtement très touchante d'un point de vue strictement humain, là, qui a adopté un bébé qui était dépendant aux opioïdes parce que sa mère était elle-même dépendante pendant sa grossesse. Donc, le policier est venu parler de l'impact du financement accru qui a été encouragé par Donald Trump pour lutter contre la crise des opioïdes. Donc, on l'oublie un petit peu, là, mais au début de la présidence Trump, c'était quand même un gros enjeu. Ça, c'est un exemple. Je t'en donne un autre. Un jeune garçon qui souffre de dystrophie musculaire et qui essaye présentement un traitement médical expérimental qui était rendu possible par la loi qu'on appelle « Right to Try ». Je te simplifie, là, mais ce que ça dit essentiellement, c'est que certains patients qui sont grièvement malades peuvent, s'ils le veulent, essayer des médicaments qui n'ont pas encore été formellement approuvés. Ça a été signé par Donald Trump. Donc, ça, ce sont des exemples d'accomplissements concrets qui sont proches du monde. Donc, c'est une soirée qui fonctionnait pour ça et parce que la cadence fonctionnait. Tu sais, je te parlais d'émissions de télé-réalité, ben c'est un petit peu ça la convention d'hier. Et comme émission de télé-réalité, c'était bien réussi. Donc ça, c'est un facteur pour moi. Deuxième facteur qui fait que Donald Trump ne doit peut-être pas être considéré comme mort et enterré pour l'instant, c'est la nouvelle vague de sondages qu'on a eue ce matin qui montre une chose très clairement. Joe Biden, le candidat démocrate, a reçu absolument aucun espèce de bond dans les intentions de vote à son égard après sa convention à lui la semaine dernière. Et ça, c'est très inhabituel. La dernière fois qu'on a vu ça, en fait, c'était une autre convention démocrate. Ça fait 16 ans. C'était en 2004. C'est la convention qui avait couronné John Kerry. Je sais que tu t'en rappelles. Comme moi, c'est une convention qui avait eu aucun impact positif pour le camp démocrate. Là, on semble avoir la même chose cette année du côté démocrate. Pourquoi? C'est pas clair pour l'instant. Ça pourrait être tout simplement parce qu'il y a moins de gens qui ont porté attention parce qu'elle était virtuelle cette année. Ça peut être parce que, écoute, ça a été un barrage d'attaques contre Donald Trump et les attaques contre Donald Trump, on les connaît depuis longtemps. Ça peut être aussi parce que le pays est tellement polarisé que l'opinion publique est juste rendue presque immuable. Je sais pas pourquoi exactement présentement, mais ce que je sais, c'est que normalement, quand tu sors de ta convention, tu vas avoir un bond de 2, 3, 4, 5 points de pourcentage dans les intentions de vote en ta faveur. T'as pas ça présentement du côté démocrate. Est-ce que Donald Trump va subir le même sort? On verra la semaine prochaine, quand on aura des sondages la semaine prochaine. Pour l'instant, disons que ça lui donne une ouverture pour rattraper ou tout au moins combler une partie de l'écart entre Biden et lui. Surtout, et je te rajoute ceci parce que c'est un autre facteur important présentement, surtout dans le contexte de ce qu'on observe dans les rues américaines. Et là, je te parle plus seulement de métropole. Je te parle de banlieue. Je sais que tu parlais avec Philippe Quentin tantôt de ce qui se passe à Kenosha, au Wisconsin. On sait qu'il y a eu immensément de grabuge après cette autre fusillade là, d'un jeune homme noir. Mais là, tu as des stratèges et des sondeurs, à la fois du côté républicain et du côté démocrate, qui commencent à le dire publiquement que toute cette problématique-là là, des violences dans les rues, c'est en train de devenir un problème pour les démocrates. Pourquoi? Mm-hmm. Parce qu'ils sont vus comme étant trop mous face aux émeutes. Et je le sais, je te laisserai même pas placer la phrase que je sais que tu veux placer, c'est-à-dire que toi, tu me le dis depuis le printemps dernier. Je te laisserai même pas m'interrompre pour me dire ça. Ce que je vais te dire, par contre, ceci, proactivement pour me défendre là, de façon préventive, oui. C'est que Kenosha est quand même différent. Ce qu'on voit à Kenosha, c'est différent de ce qu'on a vu ailleurs. Parce que là, c'est pas, encore une fois, c'est pas une grosse ville, c'est pas une métropole, c'est une petite banlieue. Et il y a ça aussi qui est important politiquement à garder en tête, là, parce que c'est très symbolique. C'est une petite banlieue qui, pendant 40 ans, a voté démocrate et en 2016 a voté pour Donald Trump, dans un État qui, pendant 30 ans, a voté démocrate avant de basculer dans le camp de Donald Trump en 2016. Autrement dit, ce qui se passe présentement, si les démocrates ne portent pas attention à ça et se disent que ça ne peut pas les mordre dans le derrière, en bon français, là, disons qu'ils jouent un petit peu avec le feu.
Mais il y a ça à dire. Raphaël, tu sais, ce qui se passe dans les rues, c'est sûr que... c'est, tu regardes ça à la télé, c'est un peu troublant. Bon, on peut comprendre la colère, là, mais ça demeure troublant, là, les commerces incendiés, mm-hmm. les roches lancées, etc. Puis je te ramène à la fin des années 60. Fin des années 60, ça brassait énormément aux États-Unis. Là. Il y avait des mouvements de gauche qui étaient très, très forts. Là. Mm-hmm. Mais Nixon a gagné. Nixon a gagné en 68 et en partie en promettant de restaurer la loi et l'ordre, en promettant de mettre tous les hippies qui manifestaient au pas. Ça, faut pas juste voir ça comme une force pour le changement, ce qui se passe dans la rue. L'autre côté peut capitaliser là-dessus.
L'autre côté peut capitaliser et je sais que j'ai été très récalcitrant à comparer directement Nixon à Trump à cause de ce que je te disais au printemps, c'est-à-dire que Nixon n'était pas le président sortant, là Trump l'est, donc c'est un petit peu sous sa gouverne que ça se passe. Je pense que c'est quand même plus difficile pour jouer que ça pouvait l'être pour Nixon en 68, mais il reste qu'il y a au moins deux signes qui pour moi ne mentent pas par rapport à ce que tu dis là pour ce qui est du potentiel de Trump de capitaliser là-dessus. Deux développements aujourd'hui là-dessus. Premièrement, tu te rappelles comme moi ce qui est arrivé dans les derniers mois quand Donald Trump parlait de déployer des agents fédéraux pour intervenir, que ça soit à Chicago, à Seattle, à Portland, tu avais des élus démocrates, des élus que ce soit des gouverneurs, des maires qui disaient non. Là aujourd'hui, Donald Trump a dit « je veux envoyer des agents fédéraux à Kenosha ». Comment a réagi le gouverneur démocrate de l'État? Il a dit oui. Tu sais, c'est pas un hasard. Ça, c'est une chose. La deuxième, et ça concerne le candidat présidentiel du Parti démocrate, pas un gouverneur ou un maire, le candidat présidentiel, M. Biden. Écoute, il a sorti une vidéo. Je vais nous en faire écouter un bref extrait de 15 secondes. Après, je reviens juste pour mettre le contexte, là. Mais écoutons d'abord ce que M. Biden avait à dire sur le sujet aujourd'hui.
Protesting brutality is a right and absolutely necessary. But burning down communities is not protest. It's needless violence. Violence that endangers lives, violence that guts businesses and shutters businesses that serve the community, that's wrong.
Donc, c'est ça, ce que Biden essaie de faire ici, là, c'est de s'éloigner de ces casseurs-là, de dire, moi, ces gens-là, je les veux pas dans ma famille politique.
T'as tout compris, et il y a une raison pour laquelle il le fait. C'est qu'encore une fois, du côté démocrate, on est en train de se dire, aïe aïe, si on réagit pas, et si on réagit pas vite, ça peut se retourner contre nous. Et quand je te dis réagir vite, et je te laisse là-dessus, ça a été filmé, là, cette déclaration-là de Joe Biden, avec un téléphone intelligent, ça a été garoché sur son compte Twitter. Ça, en bon français, ça veut dire, faut qu'on sorte au PC. Avant que ça commence à faire des réels dommages politiques. Fait qu'écoute, il y a une ouverture présentement pour Donald Trump. On regardera ce que ça donne pour ce qui est de la fin de sa convention aujourd'hui et demain. Un bémol, par contre, possible, et ça a peut-être l'air d'avoir aucun lien, mais le lien est direct. L'ouragan Laura, on pourra peut-être s'en reparler demain. Mm. Je sais que tu en as déjà parlé un petit peu plus tôt à l'émission, mais ça pourrait carrément éclipser une bonne partie de la conclusion de la convention républicaine parce qu'on s'attend à quelque chose de majeur comme ouragan. Donc, peut-être bémol, mais autrement, franchement, j'ai pas vu Donald Trump dans une position peut-être aussi encourageante que ça depuis un sacré bout de temps.
Merci Raphaël, à demain.